Dorothée Nolès, vous êtes écrivain, chercheur, universitaire. Je voudrais savoir comment vous avez connu l'œuvre de Gatti.
Tout à fait par hasard. J'avais des élèves que j'avais envoyés en France dans les centres culturels qui se formaient à ce moment-là. Et je connaissais très bien Planchon pour cette raison-là. Et j'avais l'habitude d'aller très souvent dans le Midi. Donc en passant de Londres jusque dans le Midi en voiture, on pourrait toujours faire étape à Villeurbanne et voir ce qui se passait. Et c'était là que j'ai vu l'élève que j'avais envoyé pour faire une année de stage là. Elle m'a dit, ah, vous avez raté quelque chose d'extraordinaire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'était justement la pièce sur Auguste G. Et elle m'a dit, oh, vous auriez dû venir hier, vous l'aurez vu. Je ne l'ai pas vu hier, mais le soir même, j'ai vu la pièce, la remise de Planchon. Mais l'enthousiasme de cette fille m'avait frappé. Et quand après, j'ai appris que Planchon donnait une autre version à l'Odéon, en 64, bien, je suis allée voir. Et c'était Jean-Moïse, parce que je suis allée voir les répétitions, c'était dans l'aude du théâtre de l'Odéon à Paris, et il me voyait là, en train de me tourner les pouces, il me dit, tiens, vous n'avez pas de texte? Je dis, non, pas de texte. Alors, évidemment, tout le monde blague maintenant, moi je n'ai pas de texte, je le demande. Il me l'a passé avec toutes les indications de mise en scène, qui le concernait. Donc voilà ma première rencontre avec Gatti au fond.
Mais vous n'avez pas eu envie, vous avez fait des mises en scène des textes de Gatti.
Pendant une vingtaine d'années d'ailleurs, j'ai monté même le rhinocéros de UNESCO à Londres et j'ai devancé la mise en scène de Orson Welles avec notre grand acteur Olivier. Et je dois dire que certaines personnes qui ont vu ma représentation ont dit que vraiment, c'était pas pour moi. C'était parce que vraiment, Wells avait complètement déformé. Et j'ai eu la joie d'apprendre que UNESCO avait dit de moi qu'à ce moment-là, j'étais la seule personne à comprendre sa pièce. Parce que tout le monde parlait de conformisme. Qu'est-ce que c'est que le conformisme? Il faut conformer à quelque chose, n'est-ce pas? Mais en général, ça n'existe pas. Et moi, j'ai montré que c'était bien une pièce politique et que ça sortait de ses expériences ses expériences roumaines, n'est-ce pas? Eh bien, voilà.
Mais Wells connaissait Gatti, l'œuvre de Gatti ou Gatti lui-même?
Ah, j'ai décidé de monter cette pièce, Auguste G. Évidemment, je n'ai pas averti Gatti au moment parce que l'idée ne m'est pas venue. Mais il y a eu une si bonne presse que je l'ai envoyé. J'ai dit, tiens, Monsieur Gatti, à ce moment-là, j'ai monté votre pièce et peut-être que ça vous intéresse de savoir. Alors, à partir de ce moment-là, je me suis mise à suivre toutes les mises en scène qu'il faisait et même lire les pièces qu'il ne faisait pas parce que Jean-Jacques était très gentil quand il s'est mis plus tard à travailler avec Gatti, il m'a donné tous les textes qui étaient très souvent en manuscrit et non pas imprimés. Et j'ai eu l'idée même d'aller à Cuba pour voir les conditions qui étaient représentées dans la pièce. Donc, résultat, c'est que pour ce que je pourrais appeler la première partie, c'était Gatti qui travaillait pour le théâtre traditionnel sans toutefois se conformer à cela. Parce que j'avais compris qu'il ne faisait pas du théâtre comme tout le monde, que malgré le fait qu'il avait des personnages, des caractères, que c'était déjà, si j'ose dire, un théâtre de langage. Mais il ne disait pas cela à ce moment-là. C'était, ce qui le concernait, c'était des idées, les issues des questions. Alors, s'il a parlé de Sacco et Vanzetti, c'était à cause de la situation en Amérique, pour les immigrations qu'on n'aimait pas. Donc, c'était plutôt un théâtre d'issues. Alors, il a dit plus tard, à ce moment-là, il ne l'avait pas encore dit, qu'il travaillait pour son public. Il voulait placer devant son public les issues qui s'étaient présentées à son esprit et qu'il voulait mettre dans ses pièces. Donc, c'est, comme ça, ce n'était pas un théâtre de personnages, de caractères. Il en fallait pour faire porter ces idées. Mais c'était un théâtre où c'était clairement exprimé les issues qui étaient là. Et il avait dit qu'il faisait ça pour armer le public. Parce que n'oubliez pas qu'il se faisait représenter, à part ces grandes choses-là, dans les centres dramatiques en France. Et je crois qu'après Brecht, c'est lui qui faisait venir le plus grand nombre de spectateurs. Ça, je peux le dire. Enfin, le moment, je ne sais pas si c'était catastrophe ou quoi, mais en tout cas, le moment qui a divisé sa vie, c'était l'interdiction, précisément, de la Passion du général Franco, qui a été faite pour des, je crois, des raisons économiques. On allait signer un contrat économique avec les Espagnols qui ne voulaient pas que la femme de Franco soit représentée comme ça. Mais la chose qui m'avait intéressée et même amusée, que déjà les Espagnols avaient fait une histoire quand la pièce a été présentée en Allemagne. Ils ne voulaient pas que la pièce soit présentée, mais ça a été présenté quand même, et le gouvernement ou les autorités ont fait un procès qui a été jugé par le célèbre juge Boer là. Et il a dit, non seulement je ne condamne pas la pièce, mais je dis à tout le monde, il faut le voir. Il faut aller le voir. Alors comme ça, ça a passé. Mais malgré ça, les autorités en France ont tergiversé. Alors ils ont, à la dernière minute, ils ont interdit la pièce. Et c'est à partir de ce moment-là que Gatti est parti en claquant les portes sur le théâtre traditionnel, et qu'il a commencé à faire ce qu'il fait maintenant.
Qu'est-ce qui vous intéresse le plus chez Gatti ? C'est son théâtre d'idées, son théâtre politique, ou c'est justement c'est les formes, sa dramaturgie ?
D'abord, j'étais intéressée surtout par les idées politiques, parce qu'au fond, moi, j'aime beaucoup discuter des questions politiques. J'ai des idées là-dessus. Et j'ai trouvé que ça marchait un peu de pair avec ce que pensait Gatti. Et d'ailleurs, ce n'était pas des idées politiques présentées comme ça, mais en présentant les raisons pour lesquelles on devrait, ce serait une bonne idée de continuer à penser de cette même façon. Mais évidemment, il faut que je vous dise que j'ai été dressée au théâtre. J'ai commencé par être ballerine. Et évidemment, tout ce qui concernait la présentation, c'est essentiel pour le ballet. Vous ne pouvez pas... S'il y a des thèmes à danser, vous dansez le thème, mais vous aussi dansez les mouvements. Et quand j'ai vu sa façon de présenter ses pièces, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose d'intéressant là aussi. Maintenant, évidemment, ça progresse, c'est encore très différent. Mais vous savez, j'ai vu le commencement de ceci. Je vous ai dit que je l'ai suivi à Cuba, parce que c'était vraiment pour voir son film sur Cuba que je n'arrivais pas à voir en France.
C'était à quelle époque, ça?
Attendez, 1980, peut-être, à peu près. Enfin, pour les dates maintenant, je les oublie toujours, mais c'était à peu près à ce moment-là que je suis allée à Cuba pour voir le pays, pour comprendre un peu personnellement ce qui s'était passé au moment de l'arrivée de Castro, parce que ça, c'était dans mes idées, mais de voir aussi si sa façon de présenter ceci, c'était l'histoire de la baie des cochons, vous savez. Et paraît que lui-même était là au moment de la crise des missiles. Alors, tout ça rentrait dans mon expérience. En Angleterre, on n'en parlait pas. Cuba, ben, ça n'existait pas. Il fallait y aller donc. Mais j'ai commencé à m'intéresser à sa façon de présenter ses pièces. Mais après, il y a eu un changement. Un changement qui, pour moi, est devenu très, très clair quand il a monté à Montréal avec les étudiants de la section théâtre, les pronoms personnels. Pronoms personnels. Vous n'avez pas de Monsieur X, Mademoiselle Y, etc. Il n'y a pas question de psychologie. Il y en avait peut-être un peu avant, mais évidemment, il râle toujours contre le théâtre psychologique, comme vous savez. Mais à ce moment-là, c'était pas encore, il n'avait pas encore sorti toutes ses idées là-dessus. Mais c'était clair que c'était la direction qu'il allait prendre. Parce que, et puis, encore une chose qui était très claire, c'est sa grande capacité d'adapter ce qu'il a fait déjà, ce qu'il a déjà écrit, aux circonstances. Je l'avais entendu faire une lecture de cette pièce à Paris, et puis après, je le vois en train de monter cette pièce là-bas à Montréal. Je dois dire que, étant danseuse, je me suis dit, comment est-ce qu'il va monter un personnage qui s'appelle « je » ? Comment est-ce qu'il va monter un personnage qui s'appelle « tu » ? Évidemment, il a mis sur le dos « je »,« tu ». Mais sans ça, il fallait trouver un truc. Et c'est le même truc dont il se sert ici avec le système de Kung Fu. Parce que chaque personnage, avant de prononcer ou de dire quoi que ce soit, faisait un mouvement, mais c'était karaté dont il s'est servi. Mais déjà, je me suis dit, alors, il part, il va quitter le théâtre psychologique complètement. Et puis, en plus, il a refait la pièce. C'est ça qui m'avait frappé. Quand je l'ai entendu lire la pièce à Paris, je crois qu'il y avait à peu près une douzaine de personnages, je tue, etc. Mais là-bas, quand il est arrivé, il y avait 22 qui voulait jouer dans sa représentation. Et donc, Gatti a disparu, paraît-il, pendant à peu près une semaine. Moi, je n'étais pas à Montréal à ce moment-là pour réécrire sa pièce. Il a réécrit pour 22 personnes. Et ce n'est pas tout. Parce que là, il y avait la question du langage, le français ou l'anglais, la bataille, si on peut dire, des deux langues. Et il a fait entrer ça dans son texte. Ce n'était pas là au début. Et il a fait exactement la même chose ici, parce que j'ai vu au mois de février le texte, le chant d'amour, qui n'est pas du tout ce texte. Moi, je l'ai lu, je l'ai archi-lu, si j'ose dire, parce que pour moi, ça, c'est le plus difficile. Je suis peut-être versée dans la politique, mais pas dans les religions. Alors, surtout le judaïsme, ça, je suis nulle. Et je dois dire qu'il y avait pas mal de couleuvres à avaler pour tâcher de me sortir de la difficulté de la compréhension de ce texte. Mais avant de venir ici, je me suis dit vraiment, il faut que je sois à la page. Je l'ai relu plusieurs fois, j'arrive ici, ce n'est pas ce texte du tout, c'est autre chose. Mais encore adapté aux circonstances, c'est ce qu'il fait toujours. Jusqu'à quel point est-ce qu'il peut continuer à faire ça? C'est ça que je me demande. J'ai entendu vaguement parler, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, qu'on l'a invité pour de représenter cette pièce ou de donner cette pièce, je ne sais pas exactement sous quelle forme, à Strasbourg. Eh bien, il y a eu des détenus de Strasbourg qui ont été envoyés en Allemagne. Est-ce que ça serait une réécriture, réécrit complètement ou non? Je ne sais pas.
C'est un véritable auteur C'est un véritable auteur,
Mangatti. Oui, c'est un écrivain. Un écrivain qui, par hasard, se sert du théâtre. Et je crois qu'il se sert du théâtre parce que, comme ça, il atteint le plus grand nombre. Avec un livre, évidemment, vous pouvez devenir un best-seller, comme je l'ai annoncé en ville, mais la plupart du temps, vous n'êtes pas un best-seller. Ou le roman que vous avez fait n'est pas ça. Mais au théâtre, vous avez tout de même un certain nombre de personnes ou de spectateurs. Je sais qu'il dit qu'il se fiche complètement du spectateur. Il a même un vocabulaire remarquable pour les qualifier de bêtes à cornes et que sais-je, je ne dis pas le reste. Mais tout de même, il veut se faire entendre. Alors, c'est au spectateur qu'il se fait entendre, comme ici.
Mais il donne quand même les clés au spectateur pour comprendre son spectacle.
Ah, oui,
même s'il le traite de bête à cornes, il le sent capable de comprendre.
Oui, mais ça devient, je crois, de plus en plus difficile. C'est pour ça que maintenant, il donne des pages d'explication, des petits feuilletons ou que sais-je. Et c'est très utile. À Avignon, par exemple, ils ont imprimé une petite chose, c'est une douzaine de pages, pas plus grand que ça, avec les noms de tous les dieux, que sais-je, et l'histoire soit de la religion ou de ce qu'ils ont fait dans la religion, ce qui était très utile. Même pour moi, tout de même, je suis un peu versée dans ces questions, mais pas beaucoup. Mais pour d'autres gens qui venaient, ça aurait été très difficile. Mais une fois qu'ils avaient lu ce petit brochure, ça allait très bien.
Et ici, il vient de nous expliquer, à chaque alphabet, il vient de nous expliquer de quoi il s'agit.
Oui, de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas de personnage, il s'agit de la réalité. Tiens, il a dit, vous savez, et ça m'a beaucoup frappé, que lui, il n'avait pas d'imagination. Alors, je crois que ce n'est pas vrai. Il a tout de même une imagination, mais il faut qu'il trouve un point de départ pour faire marcher son imagination. Et le point de départ n'est pas une idée. C'est une réalité spéciale, quelque chose qui est arrivé, tel que l'exode ou des détenus, etc. Et pas simplement... Évidemment, il y a beaucoup d'écrivains qui ont pris comme point de départ une chose qui est arrivée, comme d'ailleurs certains écrivains italiens ont fait sur Sacco e Vanzetti. Alors on vous raconte leur vie, etc., etc. Lui, il s'en fiche. C'est le problème derrière ce qui s'est passé qui l'intéresse. Et alors, qu'est-ce que je vous ai dit ça pour une raison. C'est toujours la question derrière. Ah oui, il dit que non, il faut un point de départ. Mais le point de départ pour les gens, par exemple, qui n'ont pas été concernés par cela, est toujours assez aride. Ce qu'il sort n'est pas très intéressant. Cette pièce, je l'ai lue, c'est intéressant, mais c'est tout. Mais Gatti, lui, il dit qu'il faut vraiment que la personne qui part de cette réalité doit avoir un vécu qui se donne dans la même atmosphère ou dans les mêmes circonstances, qui soit capable de recevoir les sentiments ou les idées que ceci déclenche chez le personnage. Et c'est ça qu'il fait. Et c'est pour cela qu'il parle tellement de ces années passées, ou 100 ans plutôt, passées dans la résistance. Il a même dit hier que c'est toute son adolescence qui est représentée par la résistance. Il y a un certain temps, un an, deux ans, je ne me souviens pas exactement, on m'avait demandé de faire une petite conférence chez nous en Angleterre sur Gatti. Je me suis dit, bon, il faut que je prenne un sujet, que je parle d'une idée. Lui, il faut que la personne qui fait la pièce ait le vécu nécessaire pour le traduire. Alors, il a tout ça. Eh bien, j'ai pris comme point de départ, dans ma tête seulement, l'idée de nombre de pièces, même film, qu'il a fait sur les camps. La résistance et puis les camps. Et j'en avais discuté avec un collègue. On dit, oh, vous n'allez pas faire ça. Tout le monde va ou mourir ou va pleurer ou quelque chose comme ça. Alors j'ai été déconseillée. Enfin, ben, simplement par les réactions des gens avec qui j'avais un peu parlé de ça. Et j'avais pris un autre sujet qui est qui est venu de ce moment. Parce qu'il a raconté quelque part que quand il a été emprisonné, je crois bien que c'était à Tulle, avec les trois autres, avec lui, et ben, pas mal matraqué, il a demandé aux trois autres, si c'était à refaire, est-ce que vous prendriez la décision de le refaire? Et il a dit qu'il y a eu des moments où ces gens-là n'ont pas répondu. Finalement, les trois ont dit oui. Alors pour lui, c'était le sacré mot juste. Et depuis des années, pendant des années après, il a toujours cherché ce qu'il appelle le mot juste. Et je crois qu'il continue même maintenant. Et est-ce qu'il a trouvé avec ces alphabets, qui sont au fond muets, ne sont pas des personnages, le mot juste? Je crois que c'est ça qu'il cherche. Mais il a cherché dans toutes ses pièces après, et dans toute sa vie.
Il le cherche dans la philosophie ou dans la réalité?
Pardon?
Le mot juste, il le cherche dans la philosophie ou dans la réalité?
Je crois dans la réalité. Parce qu'à ce moment-là, il était jeune quand il a dit ça. Il n'avait que 17, 18 ans. Alors, je sais qu'il avait beaucoup lu pour un garçon de son âge, ça oui, mais je ne pense pas que ça ait été une question philosophique. Vous savez, ce n'est pas la philosophie telle qu'elle chez Gatiss. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, vient de lui, de sa vie à lui, son vécu à lui, qui est très important. Sans ce vécu, vous n'aurez pas l'œuvre de Gatiss telle qu'elle est maintenant. Vous aurez peut-être une autre sorte, mais ce ne serait pas l'œuvre qu'il fait maintenant. Si c'était seulement un sujet, un écrivain qui disait « Aujourd'hui, je vais parler, vous savez, des histoires royales en Angleterre, ou je vais parler du naufrage de tel ou tel bateau. » Vous voyez, on n'a pas l'expérience de cela. Alors, si vous lisez ce qu'on a écrit, la plupart du temps, ça vous laisse froid. Rien de ce que Gatiss fait vous laisse dans cet état. Rien, rien.
Il arrive à dépasser l'histoire pour en faire une autre, une, pas vraiment une autre histoire, mais...
Non, mais il vous montre l'autre côté de l'histoire. Pas l'histoire reconnue par les historiens, par exemple. Ils s'en fichent, d'ailleurs. Et ils pensent... Parce que la plupart du temps, ils l'ont dit d'autres. Alors, chaque historien ajoute ses propres pensées, sa propre... expérience de la vie, ils ne peuvent pas faire autrement. Résultat, c'est que ce que vous avez à la fin, ce n'est plus la vraie histoire. Alors lui, il cherche à mettre tout ça à l'écart et vous donner la chose telle qu'elle, c'est ce qu'il fait en ce moment.
Mais est-ce qu'il peut y avoir une vérité dans l'histoire ?
S'agit de savoir. Ça, je ne saurais pas. C'est ce que Gatiss cherche. Mais il y a une certaine vérité, oui, mais chaque écrivain, chaque historien contribue un peu de sa propre personnalité à ce qu'il écrit. Hein.
Chaque fait, chaque idée a son contraire.
Chaque idée a son...
Chaque fait et chaque idée a son contraire.
Son contraire, vous dites. Ah oui, j'avais pas entendu le dernier mot. Ben, pas nécessairement, mais ça pourrait l'être. En tout cas, ce n'est jamais identique, n'est-ce pas? Votre idée et la mienne, peut-être... plus ou moins équivalente, mais pas absolument identique. Alors il y a déjà de l'histoire entre les deux.
Mais en même temps, c'est assez. Il raconte peut-être des histoires et pas l'histoire, mais c'est universel ce qui donne à voir.
C'est universel. Mais vous parlez de cette pièce-là en général.
Enfin, moi, c'est la première que je vois. Donc, c'est la première pièce que je vois, mais il me semble qu'il met. Les idées philosophiques du monde entier là-dedans.
Il y a toujours des idées qu'on peut appeler, même dès le début, philosophiques. Même avec c'est le mot juste. C'est une idée philosophique, au fond. Ce n'est pas la philosophie de Kant, de Schopenhauer, etc., mais c'est tout de même philosophique. Et ça pourrait être aussi politique. Alors, il y a toujours une idée, parce que sans ça, ce ne serait pas intéressant. Ce serait... une pièce de Feydeau qui vous fait rigoler, mais vous n'allez pas plus loin. Mais lui, tout ce qu'il fait laisse une trace. Et lui, parce que comme je vous ai dit, il a dit au début qu'il travaillait pour son public, le public des centres dramatiques. Et en travaillant pour ces public, il voudrait mettre devant eux les issues en question pour qu'eux, ils prennent une décision. Et il dit que dès qu'on a pris conscience plutôt, quand on a pris conscience des possibilités ou de la situation, des issues, il espère qu'après, on arrivera à prendre position pour ou contre. Alors, comme ça, ils seront armés. Mais c'est au moment de l'interdiction qu'il a dit « Je ne veux plus faire ça. Je veux travailler non pas pour, mais avec. » Et il a travaillé presque sur la commande, si vous voulez, au début, des paysans chez qui il était, les ouvriers chez Peugeot, parce qu'eux, ils insistaient « Il faut mettre ça dans le scénario, il faut mettre ça dans le film que vous faites sur mon scénario, et ainsi de suite. » Alors donc, il représente les idées des autres Mais maintenant, il revient à ses idées qu'il veut mettre devant le public pour qu'il sorte de là, qu'il prenne une décision, qu'il prenne d'abord conscience et après, à moins d'être quelqu'un d'assez nul, il faut prendre quand même position.
Le changement, il est là, c'est de travailler avec et non plus pour.
Le changement, oui, et ça date que de 68. Et il avait même pris conscience de cela, parce qu'il en a parlé avec certains critiques. Alors, j'avais pris conscience parce que je voyais les pièces, je ne connaissais pas les critiques, mais depuis, il en a parlé que ce n'était pas pour, mais avec. Et il dit très souvent qu'il a pris conscience du fait qu'il est devenu un écrivain public seulement quand il était chez Peugeot et on a fait les films. Parce que lui, il voulait faire ça. Ah non, 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 on dit les Italiens ou les Espagnols, nous voulons que vous exprimiez ceci, etc. Nous ne sommes pas capables, mais vous, voilà notre idée, il faut bien le faire. Donc, écrivain public, et il l'a toujours. Surtout, par exemple, comme je vous ai dit, quand il change ses pièces pour parler de ce qui les concerne en personne, comme il l'a fait à Montréal pour l'histoire de la langue française et de la langue anglaise.
Ici aussi, à Marseille.
Alors, écoutez, vous êtes plus qualifié que moi pour parler de cela, parce que je suis tout de même une étrangère, je ne veux pas mettre mes deux pieds dans le plat. Non.
Bon, je vous remercie. Alors, où en est sa quête sur le langage en ce moment?
Ben, moi, je ne peux pas vous le dire, mais je me demande. Parce que vous voyez, il avait dit à Avignon qu'il voulait mettre la barre plus haut et aussi haut que Claudel. Il ne voulait pas que la barre soit au-dessous de Claudel. Eh bien, il faut trouver des comédiens ou des gens capables de jouer jusqu'à Claudel. Eh bien, moi, j'ai connu les premières de Claudel. Et quand Claudel a commencé avec Tête d'or et tout ça, Le public a pensé qu'il était absolument fou. Alors ce langage-là au théâtre, on ne le connaissait pas. Ça dépassait même ce qu'on connaissait de Giraudoux, mais ça, on l'acceptait. Mais vous savez, vraiment, on se demandait ce qui se passait. Mais maintenant, on joue tête d'or pour tout le monde. Mais s'il a voulu, à partir d'un certain moment, que le langage de ses textes ne soit jamais au-dessous de Claudel, c'était pas pour lui, mais pour hausser jusqu'à ce niveau-là les personnes qui jouaient ces textes. Et ce qui m'a épaté, c'est qu'il a réussi, parce qu'au fond, pas mal des gens n'ont pas d'éducation avec qui il a travaillé. Et de tâcher, de retenir tout cela, et puis de l'exprimer d'une façon cohérente, c'est pas facile. Je sais qu'au début, j'ai entendu des gens qui débitaient des lignes, des vers, qui ne comprenaient pas, parce que j'ai vu le travail de Gatti très souvent dès le commencement des stages, et puis après. Et il y a toute une différence à Fleury-Mérogis, par exemple. Les gens étaient tout à fait différents. Quand je les ai vus au début, c'était des gens comme ça. Et puis après, ils étaient bien habillés. Ils ont même joué de l'orchestre. Ils paraient jouer du Mozart, la flûte enchantée, en tenue de soirée, élégant. Et ils savaient ce qu'ils disaient. Évidemment, il y avait toujours deux ou trois qui n'étaient pas à la hauteur, mais je veux dire, passe. Mais s'ils montent encore plus haut, ça va être difficile. Et je me demande jusqu'où on peut monter quand on fait du théâtre. Je ne sais pas.
Le langage, c'est la dignité de l'homme pour Gatti?
Ben oui, sans langage, on est nul. Alors il dit tout le temps qu'il faut que l'homme arrive à dire qui il est. Et quand il sait qui il est, il peut s'exprimer. Et dès qu'il a pris connaissance de qui il est, il peut prendre connaissance de qui sont les autres. Et même des sujets. Donc, de cette fois-ci, il peut diriger sa propre vie, prendre connaissance de sa vie et puis l'appliquer de la façon qu'il trouve le mieux. Je pense qu'il a fait un très grand travail.
Norvège, c'est la dignité de l'homme pour Gatti.
Oui. Pour la plupart des écrivains de théâtre, ils écrivent un texte pour être prononcé sur la scène, indépendamment de ce qu'est la personne qui prononce, qui débite le texte en question. Mais ce n'est pas le cas pour Gatti. Gatti veut absolument que ces acteurs, qui sont très souvent d'un niveau moins élevé que celui qui se fait acteur de théâtre professionnel, il veut que ce personnage-là arrive à monter au niveau et qui même le dépasse. Et c'est de cette façon-là que chaque année, il est remonté lui-même la barre de plus en plus haut. Je dois dire que la première fois que j'ai entendu, j'ai entendu son texte à Avignon, je me suis dit, non, c'est pas possible, parce que ces gens-là sont de la région, n'ont pas de culture, etc. Mais non, à force de peut-être leur expliquer ou de leur donner une inspiration, les gens se sont arrivés à s'exprimer comme si c'était le langage à eux, et puis ils l'ont gardé après. Pas évidemment le ton poétique, mais je veux dire, ils savaient bien parler, penser et se poser au fond, comme être humain.
Se poser dans le monde?
Oui, se poser dans le monde. Parce que j'en ai vu, par exemple, ce soir, ici, cette fois-ci, je vois 3 ou 4 qui ont déjà travaillé avec Gatti il y a 3 ans ici, quand Gatti a donné sa pièce sur le fascisme à FR3. Et 2 ou 3 sont déjà parmi les meilleurs, parce qu'ils ont... Ils ont commencé par être nuls, plus ou moins. Ils sont arrivés à un grand niveau, un niveau très haut, déjà à Marseille, et ils sont encore montés plus haut. Je vous donne, par exemple, cette jeune fille, c'est Nadège, je crois, en mauve, qui a les mouvements de mains splendides et une voix splendide. Alors, celle-là, et puis les autres sont parmi les meilleurs. Alors, vous voyez, c'est le contact poursuivi, si vous voulez, avec Gatti, qui a fait que ces gens-là ont été complètement transformés. Alors, c'est pour eux, ils sont devenus des personnages, non, de vrais êtres humains importants. Alors, il leur a donné la dignité, quoi. Et c'est ça qu'il cherche à faire. Parce que je ne pense pas qu'il travaille pour lui. Ce n'est pas un auteur dramatique intéressé. Il est intéressé pour les autres et pour ce qu'il peut faire du matériel humain qui est devant lui. Alors ce matériel humain, si ça part de bas, doit tout de même être transformé, pas par lui, par eux-mêmes. C'est pour ça qu'il pose cette question, qui je suis? Parce que c'est pas lui qui est le créateur. Malgré le fait qu'il a dit, je vous demande un peu de devenir Dieu avec moi. Alors, il dit de devenir Dieu avec moi. Je ne vous propose pas d'être Dieu pour vous. Ça, c'est la différence, n'est-ce pas? Il voudrait les aider et non pas à imposer sur eux une forme qui est contre la nature. Ou, une forme. Voilà.
Merci.